écoutez Ainsi Squat-elle. Bonjour tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3, vous êtes en compagnie de l'équipe d'Ainsi Squat-elle, votre émission féministe et libertaire favorite. Donc aujourd'hui, Evelyne, tu as un invité très spécial.
Oui, je reçois Diane Lamoureux pour parler de son livre « Pensée rebelle ».
Et deuxième partie de l'émission, on vous revient toujours avec des nouvelles. La semaine dernière, on vous avait dit qu'on vous parlerait encore de la situation en Haïti qui fait couler beaucoup d'encre. Et donc, c'est un peu de ça que je vais vous entretenir. Et aussi d'autres nouvelles, comme le retour, par exemple, de Lucien Bouchard sur la scène provinciale. On en est toutes et tous heureux. Et heureuses, bien évidemment. Mais avant de passer à ce sujet passionnant, on va aller en musique. Marie, qu'est-ce que tu nous as préparé?
J'ai préparé une chanson de... Je pourrais pas le prononcer, c'est trop dur, c'est en espagnol. C'est Gertrudis. La chanson s'appelle Remedios. C'est l'histoire d'une sorcière qu'on a brûlée parce qu'elle avait vendu les secrets de ses clients.
M'han hablado de una tal remedio. Me han dicho que tiene las soluciones. Ya la rareza de tu cabeza a los dolores de corazones. Ella conoce todos tus problemas, se mete en tu vida y tú no te enteras. Sé que una noche se pasó de lista y auguró la suerte y a dos años vista se burló de su cliente. Se marchó con su secreto, no le importaba en los aprietos. Hay que responder a sangre caliente, caliente. No fue lo bastante prudente para escaparse de la gente. Y aquella noche fue asesinada sin poder comprender nada, sin ver el muro oscuro del futuro. Remedico, las cartas estaban, la carta estaban echada. Esa noche se pasó de lista, nadie se despista si se burlan de esa noche. Y aún murmura, no hay memoria alguna que se libre de ella. Esa noche el último remedio vendieron a un pueblo y que la quemó. Esa noche se pasó de lista, nadie se despista si se burlan de mancha de un rojo tirando a oscuro. Mancha en la mente de cada uno. Se percibe su demencia que le llevó a gritar clemencia y abucheos, insultos y algún que otro bofetón. No tuvo tiempo ni de pedir perdón. Ella fue ladrona de las confesiones, más pura, madura, más llena de infidelidades que de mayores maldades. Y es que lo que se tiñeron la mano aún siguen tumbados. Se despista si se burlan de esa noche. Y aún murmura, no hay memoria alguna que se libre de ella. Esa noche el último remedio vendieron a un pueblo y que la quemó. Esa noche se pasó de lista, nadie se despista si se burlan de esa noche.
Un
Squatel, cette semaine, on reçoit Diane Lamoureux, qui est professeure de philosophie politique à l'Université Laval et qui a publié cet hiver, le livre « Pensée rebelle » autour de Rosa Luxembourg, Hannah Arendt et Françoise Colin aux éditions du Remue-Ménage. Donc, on va parler un petit peu de son livre parce que il est lancé ici à Québec le 9 février, mercredi, le 9 février à l'AJT à 17h. Donc, bonjour, Madame Lamoureux.
Bonjour.
Alors, voilà, votre livre « Pensée rebelle », peut-être nous dire en premier un peu ce qui vous a amené à écrire ce livre-là. Vite comme ça.
D'une certaine façon, j'avais plusieurs objectifs. D'abord, je voulais un peu prendre acte de ce que le féminisme a changé quant à la production intellectuelle des femmes et au sérieux avec lequel on prend la production intellectuelle des femmes. Ensuite, je voulais aborder des femmes dont la pensée m'a marqué à des degrés divers et qui, ont fait que je suis devenue celle que je suis devenue. Et finalement, je voulais, surtout dans le contexte actuel et pour assurer un peu un suivi entre les diverses générations féministes, penser le féminisme comme un courant critique, pas seulement dans les rapports de genre, mais dans l'ensemble des rapports sociaux. Et donc, mettre en dialogue des féministes et des non-féministes pour voir comment le féminisme peut tirer son épingle du jeu de d'autres réflexions politiques et avancer sur le terrain de la critique sociale d'ensemble.
Et ce livre-là, dans le fond, est-ce qu'il s'adresse à un public en particulier? Est-ce que c'est grand public, plus un public universitaire?
C'est pas un livre académique, je pense. En tout cas, j'espère. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, c'est pas un livre qui s'adresse uniquement à des universitaires. Je dirais que c'est un livre politique, c'est-à-dire qui s'adresse à des gens qui veulent réfléchir à des idées, qui veulent un peu comprendre quelque chose à la pensée de trois auteurs que sont Luxembourg, Arendt et Colin, mais qui s'adresse, mettons, à des gens qui ont une certaine connaissance historique, politique, une expérience féministe et qui veulent faire travailler un petit peu leur méninge et puis pousser leur réflexion un peu plus loin et déplacer un peu leurs enjeux de réflexion. Donc, ça s'adresse à un public plus large que l'université. Ça s'adresse aussi en particulier, je dirais, aux jeunes féministes. Alors, c'est pour ça que ça me plaît d'être ici ce soir, qui, je veux bien croire qu'il y a des études féministes à l'université, mais quand même avec une façon d'occulter certains courants. Et c'était aussi pour montrer comment on peut se créer ses propres généalogies.
Parce que c'est ça, la démarche du livre est vraiment une démarche où vous ancrez la pensée d'une auteure un peu dans la pensée de l'autre auteur d'avant, mais c'est une démarche intellectuelle qui vous est quand même personnelle. Vous avez comme tracé ce fil-là conducteur entre ces trois auteurs-là. Puis c'est un fil que vous souhaitez être continué là, dans cette optique-là.
Oui, ben, il y a toujours possibilité de continuer sur le plan généalogique, c'est l'avantage, puisque après tout, la généalogie, ça dépend de ce que font les personnes qui viennent après. C'est-à-dire que dans le projet que j'ai, je pars en fait de considérations actuelles pour interroger des femmes qui ont réfléchi dans le passé à des questions qui sont pas exactement nos questions, mais qui peuvent nous aider à nous orienter dans le monde qui nous est contemporain. Et puis, je pense qu'on reviendra un peu sur ça plus tard, ce serait utile.
Donc, dans le livre, autour de Rosa Luxembourg, Hannah Arendt et Françoise Colin, on ne peut pas s'attendre à retrouver vraiment un exposé exhaustif de ces auteurs-là, mais qu'est-ce qu'on retrouve sur elles?
D'une certaine façon, j'ai choisi un certain nombre de thématiques pour chacune qui trouvaient des résonances dans la problématique de l'auteur dans les problématiques de l'auteur suivante. Donc c'est un espèce de jeu d'emboîtement. Alors de ce point de vue-là, j'avais pas comme fonction de rendre compte de l'ensemble de l'œuvre de tout le monde. Ça aurait été assez complexe et serait dans certains cas excédé mes compétences, mais c'était plutôt de voir comment on peut prendre, c'est un mode de construction de la pensée, se comporter, comme je dis toujours à mes étudiants, en idée politique. C'est important de connaître les classiques parce que ça nous permet de prendre ce qui nous intéresse et de laisser ce qui nous intéresse pas. Si on les connaît pas, on peut pas faire ce tri-là et on est obligé de réinventer la roue. Donc, c'était de voir un peu les chemins, certains chemins qu'elles avaient explorés et choisir soit de les creuser, soit d'aller ailleurs, et de laisser une certaine liberté et à moi dans l'écriture du livre et aux lectrices et lecteurs dans leur propre lecture.
Bien, merci. On va pouvoir parler, on va passer pour l'instant en musique, puis on va parler un peu plus avant du titre du livre et dans en quoi ces penseurs-là ont été rebelles, chacune à leur façon. Donc, Marie, qu'est-ce que tu nous as préparé?
On écoute Carimouche, une chanson qui s'appelle « Ragamuffin ».
J'ai tout pour être une star.
On va vous chanter des petites comptines sur un ragamuffin.
On va vous chanter des petites comptines sur un ragamuffin.
On va vous chanter des petites comptines sur un ragamuffin. Qui parle pas de mon père ni de mon grand-père mais de ma copine. Un bon régime explose plus efficace qu'une baramine. Qu'une baramine. Qu'une baramine. Nancy aime gourmater dans sa cuisine. Raconte la même rengaine en toastant ses petites tartines. Un litre de jus par habitude pour plein de vitamines. Pour la ligne. Quelque chose la turlupine. J'ai gratté un peu pour vous dire qu'elle déprime. Elle craque, elle se confie. Elle me dit ça va pas, moi toujours ça va pas. J'ai voulu faire un tube chez Virgin, mais j'ai pas rasé la ligne. Tu veux un tube, en voilà un. Bouge tes fesses et puis tes reins. Pose pas question et fais un. Saute en l'air et fais waouh. J'ai tout essayé, même la cocaïne. Je lui dis viens chez moi, je te propose de la théine. Mais non, ça marche pas, alors de la caféine. Mais non, ça marche pas, ben va faire un régime.
De CKIA FM 88,3. Vous écoutez Ainsi soit-elle et nous sommes avec Diane Lamoureux. On parle du livre Pensée rebelle dans lequel on s'est intéressé à la pensée des femmes sur le politique. On s'est intéressé à Rosa Luxembourg, Anna Arendt et Françoise Colin et on a trouvé que ces femmes-là avaient en commun d'être des rebelles. Donc, en quoi ces femmes-là, comme penseuses, étaient rebelles?
Ben, chacune était rebelle à sa façon et en fonction aussi d'enjeux de son époque. Alors, la plus classiquement rebelle sur le plan des idées politiques, c'est probablement Rosa Luxembourg, qui est une militante socialiste de la fin du 19e siècle. Elle meurt en 1919 au moment de la Révolution allemande. Elle est assassinée, en fait. C'est la première, une des premières victimes des milices nazies. C'est une internationaliste et une antimilitariste, ce qui fait que d'ailleurs elle aura passé une bonne partie de la Première Guerre mondiale emprisonnée pour ses positions antimilitaristes. Donc, d'une certaine façon, elle est rebelle parce que elle pense de façon autonome tout en étant dans un parti qui demande plus de conformité que de pensée. Elle est rebelle parce que elle pense aussi elle est une femme politique à une époque où les femmes n'avaient aucun droit politique en Allemagne, elle est rebelle parce que elle pose à l'intérieur d'un cadre marxiste, elle s'oppose tout à fait à la théorie léniniste d'organisation qui demande un peu un mimétisme de l'organisation autoritaire de l'État pour l'organisation révolutionnaire, et elle dit qu'avec ça on va juste produire d'autres formes d'autoritarisme, et elle insiste beaucoup sur le fait que les gens se politisent dans l'action, qu'il faut leur donner l'occasion d'agir politiquement et pas les endoctriner. Donc, faire confiance, d'une certaine façon, à la puissance créatrice des personnes mobilisées dans les luttes sociales, plutôt que de leur imposer un programme tout fait et une théorie du changement social. Donc, c'était ma première rebelle.
Si j'ai bien compris, elle souhaite, en tant que révolutionnaire, entre guillemets, accompagner un peu les personnes pour comprendre leur mécontentement plutôt circonstanciel, puis les lier à un système d'organisation plus grand ou à des...
Elle pense pas tellement en termes d'organisation, elle pense en termes de changer la façon dont les gens entrevoient leur rapport au monde. Elle dit, ça reste une marxiste, donc pour elle, la référence, c'est la classe ouvrière. Elle dit, la classe ouvrière, dans une société bourgeoise, dans une société capitaliste, c'est considéré uniquement comme des outils de travail, d'une certaine façon. Les ouvriers sont capables d'autre chose, et ce autre chose se manifeste toujours dans l'action. Donc, il faut arrêter de les prendre comme des valises qui vont être remplies des bonnes idées révolutionnaires et leur faire confiance pour agir et pour être capable de relier. Bon, tout le monde, quand il commence à agir politiquement, a un sujet de mécontentement. Ça peut être les salaires, ça peut être un petit chef, ça peut être l'insalubrité, ça peut être n'importe les horaires, n'importe quoi. Mais la tâche des révolutionnaires, pour elles, ce n'est pas de prêcher la bonne parole, mais plutôt de montrer comment les bas salaires, l'insalubrité des lieux de travail, c'est lié à des rapports sociaux. Donc, donc montrer à partir d'une révolte concrète comment les affaires s'enchaînent les unes aux autres.
Très intéressant. Si on passe à Hannah Arendt, une autre époque, un autre contexte.
Oui. Ben, Hannah Arendt, bon, c'est une autre époque. Bon, évidemment, sa jeunesse est marquée par le nazisme qui l'oblige à fuir l'Allemagne et la Deuxième Guerre mondiale qui la force, d'une certaine façon, à se réfugier aux États-Unis pour échapper au camp de concentration. C'est aussi une femme qui a bénéficié vraiment du cursus de l'accès aux études supérieures. Elle a pu faire un doctorat dans les années 20 en philosophie et elle est rebelle un peu moins que les autres d'une certaine façon, mais elle insiste sur deux choses. Elle insiste sur l'idée d'une politique horizontale, c'est-à-dire une politique qui soit pas le gouvernement des gens, mais l'agir ensemble des êtres humains. Et de ce point de vue-là, elle s'inspire énormément de Rosa Luxembourg. Et aussi, elle est rebelle par rapport à l'institution universitaire. Elle pense pas que ce soit le lieu le plus adéquat pour penser. Elle a toujours elle est reconnue par l'institution universitaire, elle a un diplôme, elle enseigne, etc., mais elle veut pas avoir un poste fixe à l'université, elle veut garder sa liberté de penser par rapport à l'institution, et dans le contexte des États-Unis macartistes des années 50 et largement des années 60, ce qui l'intéresse, c'est comment maintenir la possibilité du politique alors que ce à quoi on assiste, c'est un vaste mouvement d'administration des êtres humains. Et pour elle, donc, je veux dire, le mouvement d'opposition à la guerre au Vietnam et le Free Speech Movement étaient des exemples de ces îlots politiques dans un monde administré. Et finalement, Françoise Collin, bon, est une féministe qui, dès les années 70, s'engage théoriquement et pratiquement dans le mouvement des femmes. Elle est la principale animatrice d'une revue qui s'appelle Les Cahiers du Griffe, qui est publiée durant une quinzaine d'années. Et ce qu'elle, bon, sa rébellion est clairement une rébellion féministe, ce qui n'est pas le cas des deux autres, mais c'est un féministe qui est un féminisme du mouvement, un féminisme des luttes et pas un féminisme de l'institution qui comprend à la fois l'égalité des femmes, enfin plutôt la fin des inégalités sexuées, mais aussi la liberté des femmes.
Elle parle beaucoup de subjectivation puis qu'on veut pas juste un ordre social woman friendly, mais qu'on veut vraiment changer l'ordre social, puis un peu abolir les catégories, là, sans parler du queer ou sans parler de tout ça. On sent qu'il y a quand même un peu de ça, là, court-circuiter l'opposition entre les sexes.
Ben, c'est-à-dire de voir que l'opposition. Bon, je pense pas qu'elle elle en parle plutôt en termes de différent entre les sexes et un différent qui est productif d'une pensée critique et d'un mouvement d'émancipation, mais qui est productif aussi d'une autre façon d'être au monde entre les femmes et entre les hommes et les femmes.
Puis elle s'inscrit dans la lignée des deux autres, dans la volonté de ne pas produire justement de système ou d'explication globale, puis bien de penser le changement dans l'action puis dans le mouvement.
Oui, effectivement. Mais elle insiste aussi sur le fait que ce qui a fait la force du féminisme, c'était à la fois le caractère radical de ses idées, c'est-à-dire que si on va au fond de la logique des choses dans une société patriarcale, demander l'égalité et la liberté des femmes, c'est en fait remettre en cause l'ordre patriarcal comme tel, mais une pensée radicale qui a toujours été rattachée et qui a procédé de l'expérience concrète vécue par diverses femmes. Évidemment, ces expériences-là sont différentes parce que les femmes sont situées diversement dans le social, et donc qui a pas tenu à totaliser, de dire toutes les femmes sont d'abord ci ou sont d'abord ça, mais plutôt à faire tenir ensemble, dans un mouvement collectif, des diversités de situations des femmes.
Super intéressant. Bien, on va pouvoir parler un peu plus de féminisme après la prochaine pièce musicale, en fait, puis voir maintenant, nous, féministes, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça.
Et on va écouter Tanya Stephens.
Yo, I want some boy, man. I've been bent up on a screw up them face like I got them named Dr. Isha. But we don't know them as a top man boy. How them? Gangsta lean and gangsta walk. Some of them have the most gangsta talk. When the war start, them can't pop off. And then again, we give them force a back off. Gangsta move and gangsta flex. Them never even part with a gangsta yet. No, no more with feel we squeeze off a tech. I know for say them wicked, but a nice them a make. Well, number one, gangsta no brag bout machine. Just pack it in a face anytime, still fi clean. Number two, gangsta no depend on no crew. If a thing a go on, them just a do what them fi do. Number three, gangsta no chase like a us. A gang cuss, gangsta cock back and bust. Number four, gangsta no talk it, them live it. Them now end up with this gara, them give it with them. Gangsta lean and gangsta walk. Some of them have the most gangsta talk.
But when the war start, them can't pop up. And then they get wicked, them foot a back up. Gangsta move and gangsta flex. Them never even par with a gangsta yet. No know what we feel for squeeze off a tech. I don't say them wicked, but a nice them a make. Well, gangsta no officer, them a bad. No officer with them up. No officer with them bad. No officer with them a try. Gangsta a girls, man. Who the name a rat, man? I want to be like Tad, man. Yo, well, if ugly face was a license for on the place, Oliver would have been the president. But him and the wickedest comedian when him talk be love. Why them youth should have been any different with them? Gangsta lean and gangsta walk. Some of them have the most gangsta talk. When the war start, them can't pop up. And then they get wicked, them fuss a back up. Gangsta move and gangsta flex. Them never even par with a gangsta yet. No know what we feel for squeeze off a tech. I know for say them wicked, but a nice them a mess. Well, pretty thief and no gangsta. Rapist and no gangsta. Man will love see other man naked and no gangsta. Just because you wanna pop a poke that far, that no really means that you a gangsta in a star. And even though you have one of your brethren gonna lock, it no means that you a dad. That no make you at a butter. Cause some man all a run when them hear a buckle drop. Cause them think a gunshot. How them fit chat with them gangsta lane and gangsta walk. Some of them have the most gangsta talk. When the war start, them can't pop off. And then they get wicked, them force a back off. Gangsta move, gangsta flex. Them never even par with a gangsta yet. No know what we feel for squeeze off a tech. I know for say them wicked, but a nice them a mess. Well, number one, gangsta no brag about machine. No stack it in a face in the time still fi clean. Number two, gangsta no depend on no crew. If a thing I'm a go on, them best I do what them fi do. Number three, gangsta no trace like a us, a gang cuss. Gangsta cock back and bust. Number four, gangsta no talk it, them live it. Them now end up with the scar of them, give it with them. Gangsta lean and gangsta walk. Some of them have the most gangsta talk. When the war start, them can't pop up. And then they get wicked, them fuss a back up. Gangsta move and gangsta flex. Them never even par with a gangsta yet. No know what we feel for squeeze up a tech. I know for say them wicked, but a nice them a mess. Gangsta lean and gangsta walk. Some of them have the most gangsta talk. When the war start, them can't pop up.
Sur les ondes de CKIA FM 88,3, vous écoutez toujours Ainsi soit-elle et nous poursuivons cette entrevue avec Diane Lamoureux sur son livre « Pensées rebelles ». Dans le fond, on a terminé le dernier micro au sujet de Françoise Colin, qui était une penseuse féministe. Et le livre est paru aux éditions du Revue Ménage et s'inscrit dans une démarche féministe. Dans le fond, qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui ou dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que les féministes radicales ont à apprendre de ce livre-là? Et, ou réflexion plus large sur le sujet?
Bon, je pense que ce à quoi on est confronté aujourd'hui, c'est un truc un peu contradictoire. C'est-à-dire que, d'une part, le féminisme occupe quand même un certain nombre de positions institutionnelles, mais dans le contexte du néolibéralisme et du néoconservatisme qui se développe, le féminisme est soumis à une série de critiques, c'est pas cette date, ça a plus lieu d'être, etc. Et donc à la fois de l'institution et de la remise en cause. Et ce que j'ai voulu penser à travers ça, c'est quelles sont les conditions d'un féminisme radical pour aujourd'hui, pas pour les années 70, pas pour les années 60, mais pour aujourd'hui. Et pour moi, la première condition d'un féminisme radical, c'est de comprendre que le féminisme, ça ne concerne pas que les rapports de genre, ça concerne toutes les luttes contre l'injustice. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y aurait quelque part un anticapitalisme fédérateur de toutes les luttes sociales. Féminisme, ça s'oppose au néolibéralisme, entre autres parce que le néolibéralisme constitue un moment de privatisation des rapports sociaux, de négation des structures de domination et de d'exploitation et d'oppression des femmes. même si ça opprime aussi d'autres groupes sociaux, là. Mais, je veux dire, nous avons des raisons féministes de lutter contre le néolibéralisme et nous avons des encore plus de raisons féministes de lutter contre le néoconservatisme qui est le retour aux supposées valeurs familiales traditionnelles, c'est-à-dire en fait un assujettissement des femmes et une structure tout à fait patriarcale de l'organisation sociale, donc défaire finalement nos acquis péniblement gagnés dans les luttes des 30, 40, 50 dernières années, qui nous impose un agenda militariste de valorisation de la virilité. Et ça change rien que l'institution militaire soit maintenant ouverte aux femmes, d'une certaine façon. Ça continue à écraser des populations ici et ailleurs. Ça continue d'être une institution de répression et ça continue d'être une institution de reproduction de la masculinité dans ce qu'elle a de plus macho et détestable et hiérarchique. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons nos propres raisons de lutter contre ces deux grands systèmes-là, mais aussi nous avons à rappeler que la liberté et l'égalité, c'est pas des choses qui existent juste pour certaines. Ça, c'est des privilèges quand ça existe juste pour certaines. Faire de la lutte pour l'égalité, la liberté, la solidarité, une lutte actuelle d'un point de vue féministe, ça veut dire penser la liberté de toutes les femmes et pas seulement des femmes des groupes privilégiés qui viendraient diversifier les élites. On peut pas se satisfaire de la liberté politique des femmes occidentales quand les femmes dans toute une série de pays sont considérées comme des non-personnes. Et l'égalité, ce n'est pas l'égalité de quelques-unes qui accèdent à des postes de décision, mais c'est l'égalité de toutes, c'est-à-dire la fin d'un régime d'inégalité qui comprend les inégalités sexuées, mais qui comprend aussi les inégalités de classe, les inégalités racisées, etc.
Se servir de notre féminisme, dans le fond, pour développer, j'ai bien aimé l'expression « intolérance à l'injustice ». Je trouve ça vraiment beau.
Oui, non, je pense que c'est important de dire que notre féminisme, c'est pas uniquement une politique pour les femmes, c'est une politique de recomposition des sociétés pour que l'injustice n'y existe plus.
Je pense que c'est un très beau mot de la fin. Je voulais réinviter encore nos auditrices et nos auditeurs au lancement de votre livre, qui est un double lancement, en fait. Ça se passe mercredi le 9 février à 17h au bar Coop La Jetée, 251 rue Dorchester. Et c'est aussi le lancement du livre de Mélissa Blais et Hall sur c'est les actes du colloque.
Une partie des actes du colloque sur Polytechnique qui a eu lieu à l'occasion du 20e anniversaire de Polytechnique. Donc l'année dernière.
Le livre Retour sur un attentat antiféministe. Oui. Donc, vous me disiez tout à l'heure que ça allait prendre un peu la forme d'un débat, qu'il y avait une petite animation avec le public.
Oui, dans la mesure où les deux livres sont sortis à peu près en même temps, au mois de fin novembre, début décembre, ça nous paraissait intéressant de voir, on peut supposer que quelques personnes les ont lus. Moi, j'ai un texte dans le retour sur un attentat antiféministe, l'idée était que on puisse débattre autant de l'un que de l'autre, et ça fait partie un peu d'une réflexion féministe d'ensemble sur, finalement, qu'est-ce que ça nous dit, cet attentat-là, sur la montée du néoconservatisme dans la société québécoise?
Et la nécessité d'être belle, plus que jamais.
Oui, mais merci beaucoup, Diane Lamoureux.
C'est moi qui vous remercie.
Et on passe encore en musique?
Oui, on y va avec Uxia, la chanson s'appelle « Danza Ritual ».
Na praza nova do meu amor xa mai novo vento só temos mañas claras e camiños incertos. Na praza nova do meu amor xa mai novo vento só temos mañas claras e camiños incertos. E bailaremos xuntos unha danza ritual mestiza impura. E bailaremos juntos una danza ritual mestiza y pura. Ya ahí ya no va con nuestro amor, ya mudó a sorte, bañámonos las ondas, demoramos a noite. La illa no pagó nuestro amor, se mudó a sorte, bañámonos las ondas, demoramos a noite. E bailaremos juntos una danza ritual, mestiza y pura. E bailaremos juntos una danza ritual, mestiza y pura. Quiero verte en la bahía sorrir con la mano. Quiero verte en la bahía sorrir con la mano norte y otra en mí. Que bailaremos juntos una danza ritual, mestiza y pura. E bailaremos juntos una danza ritual, mestiza y pura. Quiero verte en la bahía sorrir con la mano norte. Quiero verte en la bahía sorrir con la mano norte y otra en mí. Esa será araña que tece o meu destino. Segue esa será araña que tece o meu destino. E bailaremos juntos una danza ritual, mestiza y pura. E bailaremos juntos una danza ritual, mestiza y pura. E bailaremos juntos una danza ritual, mestiza y pura. E bailaremos juntos una danza ritual.
Hola, vous êtes, n'écoutez pas Los Machos de Domingos, et non, vous êtes avec les filles d'Incisquatel, votre émission féministe libertaire favorite. J'avais juste le goût de dire hola. C'est comme ça. Alors, c'est Hélène derrière le micro. On va parler d'Haïti. Fait qu'on va arrêter de rire parce que c'est triste.
Oui. C'est révoltant.
J'ai vraiment goût de rire. Je pense que je vais commencer avec une autre nouvelle sérieuse, sinon ça va manquer de décorum. On va parler de l'énième retour. Ça va être très court. L'énième retour sur la scène politique de Lucien Bouchard, notre ami Lulu. Et oui, parce que vous savez qu'en ce moment, il y a un dossier qui fait beaucoup jaser. C'est le dossier des gaz de schiste. Et là, pour les personnes qui ne savaient pas et ceux qui le savaient, je suis vraiment un clown, là, je me calme. OK, l'Association pétrolière et gazière du Québec avait comme porte-parole André Caillé. Et son mandat vient à terme en février. Alors, ils ont appelé à la rescousse notre ami Lulu, hein, Lucien, qui disait qu'on ne travaillait pas assez. Et de retour. Mais là-dessus, et justement, pour prendre, dans le fond, du côté des, ben, pas du côté des patrons, mais en tout cas, du côté des méchants, on pourrait dire, entre guillemets. Et d'ailleurs, dans sa déclaration qui a fait parvenir par communiqué de presse cette semaine, c'était assez intéressant de voir, encore une fois, comment il tentait de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'il a dit « Je vois la découverte au Québec de volumes importants de gaz naturel comme un atout très important pour notre développement économique et le financement des missions de notre État. » Mais en même temps, évidemment, il ne pouvait pas faire fi de toute la grogne, de toutes les personnes, dans le fond, qui sortent publiquement pour dire qu'ils sont pour un moratoire, minimalement. Donc, il a dit « Je suis conscient de la nécessité de procéder à ce développement dans le plein respect des exigences du point de vue de l'environnement, de la sécurité publique, bla, bla, bla. » Donc, Ça, c'est pour Lucien Bouchard. Il y a rien d'autre à dire à part que le fait qu'il soit porte-parole de l'Association pétrolière et gazière, moi, déjà, ça me dit qu'il faut s'en méfier. Mais ce sur quoi je voulais surtout insister, en fait, c'est que c'est pas juste ici que ça fait du bruit. Ça fait du bruit aussi de l'autre côté de l'Atlantique, la question des gaz de schiste, hein, pas le retour de Lucien Bouchard. Donc, entre autres, il y a, c'est intéressant, tout ce qui se passe autour de la Confédération paysanne, c'est-à-dire qu'entre autres, José Bové, qui a été bien connu, entre autres, pour son opposition aux OGM, mais aussi comme fondateur de la Confédération paysanne, qui disait, avec d'autres militants et militantes autour de lui, que c'était important de créer des liens, dans le fond, de solidarité, parce qu'il y a des opposants québécois, mais il y a des opposants en France également. Donc, l'idée, ce qui est assez intéressante à mes yeux, c'est de mettre sur pied un système de jumelage entre des villages français et québécois pour partager des informations, mais aussi des moyens de lutte et des moyens de pression. Donc, il y a déjà eu plusieurs réunions pour essayer de voir comment ça pouvait s'organiser. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tant en France qu'au Québec, il y a eu des... on a tenté de contourner les règles pour la vente des terrains où il allait avoir exploitation. Au Québec, par exemple, les terrains sont vendus 10 cents l'hectare par année pour les 5 premières années, puis 50 cents l'hectare par la suite selon le Journal de Québec. C'est rare que je cite le Journal de Québec, mettez un X dans votre calendrier, mais c'est le cas. Puis c'est la même chose en France, en fait. Ce qui a été dénoncé par la Confédération paysanne, c'est que les règles entourant la vente des terrains français ont été aussi contournées, c'est-à-dire que normalement, il aurait dû avoir mise aux enchères, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on voit encore une fois, comme par hasard, l'État et l'industrie main dans la main.
Une des choses qu'on sait assez pas souvent pour au sujet des gaz de schiste, c'est que pour l'exploration, les citoyens qui sont propriétaires des terrains ont le droit de refuser la phase d'exploration. C'est juste par la suite, quand ils ont supposément découvert des gaz ou des choses comme
que
ça,
il y a
expropriation. Donc, soyez vigilants si vous êtes propriétaire de terrain.
Refusez l'exploration et refusez les hausses de loyer abusives également. C'est ce que le bail nous invite à faire cette semaine et dans les jours qui vont suivre. OK. Duvalier, oui, en Haïti. La semaine dernière, on vous en a parlé. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, on peut dire que les événements ou les rebondissements déboulent assez rapidement et c'est dur à suivre, mais j'ai quand même essayé d'y aller avec quelques informations pour qu'on puisse suivre ce qui se passe là-bas. Donc, là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que Jean-Claude Duvalier est accusé et on lui a interdit de quitter Haïti. Mais il faut pas se réjouir trop vite parce qu'en fait, son dossier est entre les mains d'un juge d'instruction qui va éventuellement déposer des accusations pour corruption et crimes contre l'humanité contre lui. Mais tout ça est très complexe. D'ailleurs, ça a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux cette semaine et la semaine dernière. Il y a deux types de crimes dont il sera accusé. D'abord, corruption. On va commencer avec cet aspect-là. Il y a peu de gens qui savent exactement, qui se disent, mais comment un dictateur peut partir avec plein d'argent comme ça? Puis, donc, on va essayer juste de comprendre ça ensemble. En fait, tout l'argent qui a été volé en Haïti sous Papadoc et Babydoc, donc Jean-Claude Duvalier, c'est connu en Suisse sous le nom de la Fondation Brouilly, qui est une fortune qui est contrôlée par Mamadoc, hein, dont on parle peu souvent, mais qui est pourtant très, très puissante. Donc, c'est la puissante mère Simone. Et là, on y retrouve en ce moment 5 millions d'euros. Au départ, il y avait plus de 100 millions de dollars qui y étaient, mais l'essentiel du détournement aurait été dilapidé en exil. En fait, ce que l'histoire populaire dit, c'est que pendant que Jean-Claude Duvalier faisait la grande vie sur la Côte d'Azur avec sa mère, ses maîtresses et ses domestiques, son épouse d'alors, Michelle Bennett, vidait les comptes bancaires de la famille aux États-Unis et en Suisse, avant d'aller à Saint-Domingue divorcer, où elle aurait laissé vraiment, entre guillemets, raide pauvre Jean-Claude Duvalier à Paris. On s'entend. Donc, il y a une partie de l'argent qui est restée au nom de la Fondation dans un compte à l'Union des banques suisses. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que les autorités suisses ont bloqué ce fonds temporairement, mais Jean-Claude Duvalier a tenté d'en reprendre possession par jugement de cour, parce que dans le fond, lui, il dénonçait le fait que le gouvernement de Berne lui avait confisqué l'argent parce qu'il disait « Vous avez aucune preuve que ça a été détourné, j'ai pas été poursuivi nulle part, ni en Suisse, ni en France, ni en Haïti. » D'ailleurs, dans une entrevue au Wall Street Journal en septembre dernier, c'est ce qu'il déclarait, il disait dans le fond « Je suis en train de me faire déposséder. » Hein, une petite victime ici. Puis c'est pour ça qu'il y a tant de gens, on se posait la question la semaine dernière avec vous, puis on n'était pas les seuls à se demander, mais pourquoi Duvalier retourner en Haïti? On se disait, bon, est-ce que c'est par l'appât du pouvoir? Puis en fait, le chat est sorti du sac, en fait, c'était l'appât du gain. Hein? C'est pour essayer de récupérer cet argent-là qui est bloqué en Suisse, qui est évalué à 5 millions d'euros environ. Puis justement, le fait qu'il y ait des accusations qui étaient déposées contre lui en ce moment, c'est ça qui fait que la situation est aussi enlevante, parce qu'on sait pas, parce que justement, son argument de poids, c'est qu'il n'avait pas été poursuivi. Là, il y a des poursuites contre lui, mais est-ce qu'elles vont aboutir? Donc, c'est vraiment la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Donc, il y a cette première question-là de l'argent, mais il y a la question aussi qui est encore plus importante, la question des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que il y a beaucoup, beaucoup d'Haïtiens et d'Haïtiennes, tant en Haïti que dans la diaspora, qui disent qu'il serait à peu près temps que Duvalier soit tenu responsable de la série d'assassinats politiques, d'emprisonnements illégaux, de séances de torture faits par sa milice, les Tontons Macoutes, donc qu'il soit condamné pour les crimes contre l'humanité. À ce sujet-là, il y a Amnesty International qui est assez actif, entre autres le 21 janvier dernier, dans la tentative justement de faire inculper Jean-Claude Duvalier, ou en tout cas d'y participer, ils ont fourni au gouvernement haïtien plus d'une centaine de documents qui relataient, qui témoignaient des sévices qu'il y a eu là-bas. Il y a aussi une autre action qui a été mise à l'avant. Cette fois-ci, c'est par l'avocat haïtien Mario Joseph, qui est directeur du Bureau des avocats internationaux en Haïti. Donc, la semaine dernière, on l'a vu faire la tournée des médias. En fait, il appelait tous les Canadiens qui ont été victimes du régime de terreur de Jean-Claude Duvalier à se manifester et à porter plainte pour violation des droits de la personne. Il a aussi demandé à Ottawa de songer à poursuivre les membres du régime Duvalier qui auraient trouvé refuge au Canada. Entre autres, on sait qu'il y aurait au moins deux ex-ministres de Duvalier qui habiteraient maintenant dans la région de Montréal, dont notamment l'ancien ministre de la Justice, Théodore Achille. Puis on voit justement à quel point le traumatisme est important, parce qu'on se serait attendu à ce que les plaintes déboulent, puis c'est pas vraiment le cas en ce moment. On pourra l'expliquer tout à l'heure, mais on peut commencer quand même par parler de anciens prisonniers politiques qui ont porté plainte. Sur ces quatre-là, en fait, il y en a trois qui ont été contraints à l'exil. Donc, le 19 janvier, ils ont déposé des plaintes au parquet de Port-au-Prince, des plaintes séparées contre Jean-Claude Duvalier pour crimes contre l'humanité. Il s'agit de Michel Montas, Alex Fils-Aimé, Nicole Magloire et Claude Rosier. Je parlerai pas de toutes les personnes, mais quand même, on va commencer avec le docteur Nicole Magloire, qui réclame justice en rappelant qu'elle fut, dans le fond, elle, sans explication, comme ça a été le cas pour plusieurs personnes, jetée en prison, humiliée puis exilée lors de la rave du 28 novembre 1980, au cours de laquelle la police secrète de Duvalier avait réduit au silence tout le mouvement démocratique naissant par des arrestations vraiment en cascade des journalistes, des syndicalistes, des militants politiques et des intellectuels progressistes. Une autre personne qui a porté plainte, qui est assez connue dans le milieu progressiste, c'est Michel Montas, qui est la veuve du journaliste Jean-Dominique, qui a été assassiné, c'est important de le mentionner quand même, sous le régime d'Aristide, hein, parce que ça serait important quand même de... C'est ça, de pas tomber dans Duvalier, c'est mal, Aristide, c'est bien, parce que, justement, Jean-Dominique, oui, a été emprisonné sous Duvalier, mais c'est bien sous le régime d'Aristide et par les Chimères qui a été assassiné. Donc, Michel Montas, c'est pour dire qu'elle a déposé également une plainte pour séquestration arbitraire, exil, destruction de biens privés, torture physique et morale, violation des droits civils et politiques. Donc, c'est les deux exemples que je voulais vous donner, mais donc on a quatre anciens prisonniers politiques qui ont déjà porté plainte, mais quand on connaît toute la liste, entre autres, il y a une liste qui circule en ce moment sur Internet de toutes les victimes du régime de Duvalier, c'est sûr que ça a de quoi surprendre. On se dit, ben pourquoi dans le fond les gens portent pas plainte maintenant que ces personnes-là peuvent? Puis en discutant avec des personnes proches de moi qui font partie de la diaspora haïtienne, elle disait que c'est malheureux puis c'est triste, mais que probablement que Duvalier a dû compter là-dessus, sur la terreur qu'inspirait encore son régime, même s'il est tombé depuis longtemps, pour arriver comme ça en Haïti avec autant de grâce et d'élégance, puis qu'il a dû se dire, tu sais, les gens ont encore peur, puis on se le cachera pas, les duvaliéristes sont encore quand même à certains postes de pouvoir importants. Donc, juste Aristide, quand il a été élu, on sait qu'il a placé au pouvoir tout de suite certains barons duvalieristes. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, il y a l'aspect également qu'on peut lier, dans le fond, à toute personne qui vit un traumatisme ou de la torture ou du viol, qu'on pense, ben, aux personnes qui ont subi des agressions sexuelles, on sait que c'est très difficile pour ces personnes-là de dénoncer. Ça fait partie, justement, des luttes qu'on fait de briser ces tabous-là. Donc, c'était un peu la réflexion qu'on avait, là. Ce que je vous dis, c'est pas du tout scientifique, c'est vraiment des impressions, mais on se disait, pourquoi les gens portent pas plainte? Ben, c'est peut-être justement parce qu'ils n'ont pas envie de revivre ça. C'est sûr que d'où l'intervention des organismes comme Amnesty International, d'où l'intervention de l'avocat également pour essayer de craquer les gens. Je sais pas, Marie, si tu voulais réagir.
Ben non, c'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai pas réfléchi, mais c'est fou de voir quand même que Duvalier rentre et puis ce qu'il a demandé, il a quand même fait un discours où il demande la réconciliation. Mm-hmm. Donc de quelle réconciliation il parle, là, je veux dire. Puis c'est ça, aucunement il s'est excusé des crimes commis. Et puis le document que tu m'as partagé là, où c'est trois témoignages de prisonniers politiques qui montrent comment ils ont été sortis des prisons par un commando, justement, c'est vraiment intéressant. Ça a été écrit en 73, hein. Mm-hmm. mais c'est ça, c'est je veux dire, comment pardonner à une personne comme ça, de toute façon. Pour la question des plaintes, il y a peut-être aussi le fait du système judiciaire en Haïti qui peine beaucoup en ce moment, puis depuis une couple d'années, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de plaintes qui peuvent être déposées. Déjà, ça prend de l'argent aussi de déposer des plaintes. Qui sait qu'il y a de l'argent maintenant, après un an après le séisme? Mm-hmm. Ça prend de l'argent, ça prend du temps, ça prend des gens qui vont les éplucher, les plaintes. Donc, en tout cas, je pense que c'est un ensemble de phénomènes, là, mais c'est ça.
Oui, un ensemble de questions qu'on peut se poser, mais en tout cas, peut-être d'où, justement, comme tu disais, comme tu soulignes, ça prend de l'argent, puis en ce moment, le pays est sans dessous, puis c'est probablement d'où la démarche de l'avocat dont je parlais tout à l'heure, qui disait, bon, ben les prisonniers politiques ou les exilés, les personnes qui ont quitté le pays, à vous maintenant de porter plainte. En tout cas, ça va être à suivre, certainement, puis on va avoir l'occasion d'en reparler avec vous la semaine prochaine, parce que vraiment, les événements déboulent quand même, puis on voit tous les acteurs et qui se mettent en jeu dans cette question-là. Donc, à suivre certainement. La dernière petite nouvelle, très courte, que je voulais faire avant le calendrier, c'est très rapide, en fait, ça s'inscrit dans le calendrier, ça va l'introduire. C'est une pétition qui circule en ce moment, entre autres, on peut la retrouver sur le site de la FFQ, donc www.ffq.qc.ca. Et c'est une pétition qui circule donc sur la question du viol correctif. Le viol correctif, pour les personnes, je vous en informe maintenant, c'est une pratique qui consiste à violer des femmes lesbiennes pour les guérir de leur homosexualité. C'est une pratique qui a été maintes fois dénoncée parce que maintes fois appliquée, que ce soit au Canada, aux États-Unis. Entre autres, une auteure que j'aime beaucoup, Audre Lorde, dénonçait déjà ça en 1970, disait que dans les communautés noires afro-américaines aux États-Unis, c'était une pratique vraiment courante de violer les lesbiennes, les battre pour les guérir de leur homosexualité. Puis en ce moment, pourquoi il y a une pétition qui circule là-dessus, c'est qu'en Afrique du Sud, en ce moment, cette pratique-là atteint vraiment des sommets. Entre autres, sur le site de Avaaz, on voit Millicent Gaïka qui a été ligotée, étranglée, torturée et violée plusieurs fois lors d'une agression en 2010. La photo est assez choquante et assez troublante. Puis en ce moment, dans le fond, il y a des militantes lesbiennes super courageuses qui sont en train de risquer leur vie pour faire en sorte que ce cas-là fasse changer les choses. Donc, le rappel au ministre de la Justice a dépassé les 140 000 signatures. C'est pour ça qu'on invite les gens justement à signer, parce que ça l'a contraint le ministre de la Justice à réagir à la télévision nationale. Donc, des fois, on se demande si les pétitions servent à quelque chose, mais dans ce cas-là, visiblement, la pression sert. Donc, je vous invite vraiment tout simplement à aller sur le site de la FFQ. Vous allez voir, il y a un lien tout de suite avec Avaaz pour signer cette pétition. Je pense que ça vaut vraiment le coup.
Rapidement, pour conclure l'émission, déjà un petit calendrier militant. D'abord, si vous nous écoutez en direct, mardi, ce soir, au Mardi de l'Anarchie, il y a le spectacle du groupe de hip-hop engagé Test Their Logic, à ne pas manquer tout de suite après l'émission. C'est des militants qui ont, entre autres, fait sortir un disque pour ramasser des fonds pour les prisonniers politiques du G20, toutes les personnes qui se sont faites arrêter et emprisonner là, à Toronto
cet été.
Oui, parce qu'eux-mêmes se sont fait arrêter aussi. Puis d'ailleurs, si vous êtes intéressés, ils sont en entrevue dans l'émission Cultivant notre hip-hop juste après.
Excellent. Ensuite, sinon, j'avais envie d'annoncer la première rencontre pour l'organisation un peu de des célébrations d'anniversaire du Sommet des Amériques à Québec. Donc, ça va faire 10 ans déjà en avril. Alors, ça se passe au 435 rue du Roi à Québec le 26 janvier, donc mercredi à 19h30. L'idée, c'est un petit peu de rassembler des personnes qui étaient impliquées à ce moment-là et de faire les liens avec les luttes actuelles, de faire un peu un bilan. En tout cas, il y a l'air d'avoir beaucoup de possibilités, soit d'organiser des manifestations, soit des conférences. Toutes les possibilités sont ouvertes. Donc, si cette cause-là vous interpelle puis vous voulez voir qu'est-ce qui est arrivé dans les 10 dernières années de résistance altermondialiste, c'est un rendez-vous. Vous avez toutes les informations sur le site du réseauforum.org dans la grille calendrier. Sinon, encore au Mardi de l'anarchie, mais la semaine prochaine, en même temps que notre émission en direct, ça va être le militant anti autoritaire Jaggi Singh qui va venir à Québec faire une conférence qui s'intitule « L'apartheid global, le G20, les politiques d'austérité et la criminalisation de la résistance ». C'est dès 19h à l'AJT 251 rue Dorchester.
Et puis, si vous êtes membre de CKIA et que vous n'avez pas eu l'information, il y a une AGS, une Assemblée Générale Extraordinaire ce soir qui a commencé déjà depuis 1 heure, qui est à la Maison de la Coopération. Vous pouvez rattraper votre retard en courant très, très vite. Et puis, voilà.
Ça fait le tour. Alors, on vous remercie. On remercie Evelyne pour son entrevue avec Diane Lamoureux.
On remercie Diane Lamoureux.
Marie, toujours pour un excellent choix musical, merci. Je le répète, mais c'est parce que c'est très bon. Et on vous invite à visiter notre blog.
Notre site web, ainsi squattel avec detradignon.org, où est-ce qu'on va éventuellement placer toutes nos émissions en podcast.
Ne t'inquiète pas, Nicolas. Alors, à la prochaine!
Bonne soirée!